Il est 6h02 minutes précises. À la météo aujourd'hui, ce qu'on prévoit, c'est du temps généralement ensoleillé, mais il y a un avertissement de chaleur intense aujourd'hui. L'ennuagement va se faire en après-midi avec 60 % de risque d'averse tard vers la fin de l'après-midi, mais il y a aussi un risque d'orage aujourd'hui. Il va faire 33 degrés, mais ce sera quand même très humide avec un humidex qui va nous donner une sensation de 41. Ce soir et cette nuit, ce sera généralement nuageux, 60 % de risque d'orage également, il fera 20. Et demain, c'est une journée plus confortable, je dirais, avec une alternance de soleil et nuages, 30 % de risque, 28 degrés au maximum, 34 à l'humidex. Alors ça, ce sera mieux. Et puis pour samedi, c'est le retour du temps chaud avec un maximum de 30 degrés et du soleil. Même chose pour dimanche, là, à peu près, avec soleil et 29 degrés. Bon, jetons un peu un œil sur les différents quotidiens, ce qui nous occupe en ce 2 juillet. Eh bien, tout d'abord, il y a une décision d'Air Canada. Tu sais, Air Canada n'est pas capable de se faire des amis, puis on comprend un peu pourquoi, là, parce que ils sont pas toujours sympathiques. Alors, on a décidé chez Air Canada d'abandonner une série de liaisons à compter des prochaines semaines, notamment Baie-Comeau-Montréal, ce sera abandonné, Baie-Comeau-Mont-Joli, Gaspé-les-Îles-la-Madeleine, Gaspé-Québec, Sept-Îles-Québec, Val-d'Or-Montréal, Mont-Joli-Montréal, Rouyn-Noranda-Val-d'Or, ce sera abandonné par la sympathique compagnie aérienne Air Canada. Il y aura fin complète des escales entre Gaspé, Baie-Comeau, Mont-Joli et Val-d'Or. Ça, il n'y en aura plus du tout. Alors, ça fait dire à certaines personnes qui vivent en région et qui sont carrément abandonnées, que Air Canada abandonne les Québécois avec ses arrêts de service. Et ce qu'on dit dans le Journal de Montréal, c'est qu'on abandonne ces liaisons après avoir reçu un prêt public de 800 millions de dollars. Alors, on dit, est-ce que quand on reçoit autant d'argent public, on pourrait donner un minimum de services dans les régions? Si Air Canada abandonne les régions, il est temps pour le Québec d'abandonner Air Canada. C'est ce que dit le député de Matane et chef intérimaire du Parti québécois, Pascal Bérubé. Il déplore, bien sûr, la fermeture du comptoir d'Air Canada à l'aéroport de Mont-Joli. Air Canada qui évoque le contexte de pandémie. Mais certaines fermetures sont permanentes. Alors, même si la pandémie va arrêter un jour, les arrêts, Air Canada en profite là, pour éliminer certaines de ces liaisons. Et cette décision aura des impacts économiques et touristiques et même médicaux. Mettez-vous dans la peau des gens de l'industrie, en fait, des îles de la Madeleine, entre autres, de la Gaspésie ou de la Côte-Nord, des endroits éloignés ou même isolés, dans le cas des îles de la Madeleine, qui se voient amputés d'une desserte. Bon, vous allez me dire, oui, mais il y a des transporteurs régionaux là qui pourraient combler le vide. Mais évidemment, la compétition, ça amène aussi du bon là pour les passagers parce que ça tire les prix vers le bas. Mais les petits transporteurs disent, on est prêt à augmenter la cadence, mais encore faut-il s'assurer d'un certain achalandage. Pascan Aviation, entre autres, qui dessert Bonaventure, les îles de la Madeleine, Sept-Îles, Bagotville, Mont-Joli, surveille la situation de près, dit-on. Il faut toutefois préciser qu'à l'exception de Gaspé, toutes les villes abandonnées par Air Canada sont desservies par d'autres transporteurs. Mais c'est pas le même type d'appareil, c'est souvent de plus petits appareils. Bref, c'est pas tout le monde. En fait, il y a beaucoup de mécontentement. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard avec le maire des îles de la Madeleine, Jonathan Lapierre, d'ailleurs. Et il n'y a pas juste le transport aérien qui souffre de la pandémie. Vous savez que les sociétés d'autocars ont cessé leurs activités depuis un certain temps parce que pour eux autres, c'est à peu près impossible de devenir rentable parce que si on applique les règles de distanciation de 2 mètres dans un autobus, ça fait en sorte que la capacité de 50 passe à 14 passagers. Le taux de rentabilité d'un autocar, mettons, qui fait la liaison entre Québec et Montréal, c'est 35 passagers. Alors, quand tu es à 14, forcément, tu roules à perte. Alors là, l'industrie du transport de personnes par autocar demande un signal là, de Québec pour reprendre les activités. Ce qu'on dit, C'est pas de son, pas d'image. C'est le silence quasi complet. C'est ce que dit Pierre Maheu, président du groupe Autobus Maheu de Rouyn-Noranda, qui, entre autres, fait la liaison vers Montréal. Et les autres compagnies, là, que ce soit Keolis, Intercar, Transdev et autres, disent tous à peu près la même chose. Ils ont hâte de reprendre les activités, mais pour l'instant, ils n'ont aucun signal. Bon, à part ça, qu'y a-t-il d'autre? Ah ben, dans le Journal de Montréal, toujours, on reproche, ou en fait, on note une nomination que l'on qualifie de partisane. Les partis d'opposition, en tout cas, dénoncent une autre nomination partisane de la CAQ, alors que l'ancienne chef de cabinet de Christian Dubé, quand il était au Trésor, Marie-Ève Bédard, va devenir sous-ministre adjointe à la Santé. En fait, elle l'est devenue, elle a été nommée par le Conseil des ministres. Alors là, on dit, ben écoutez, c'est quand même une nomination directe de personnel politique, donc qui était dans un cabinet comme chef de cabinet et qui s'en va, qui entre dans des emplois stables de la fonction publique. Alors Dominique Anglade, la chef libérale, a reproché cette façon de faire à la CAQ qui, pendant des années, a dit, ben nous autres, les nominations partisanes, les dynamies, il n'y en aura pas avec nous autres. Alors, Mme Anglade déplore cette nomination-là, sauf que c'est un peu délicat parce que, d'une part, les libéraux en ont fait des centaines et des centaines de nominations dites partisanes durant des années où ils ont été au pouvoir. Et Mme Bédard est issue des rangs libéraux également. Elle a été, entre autres, chef de cabinet d'Yves Bolduc à l'époque où il était à la Santé. Alors, c'est une nomination partisane de couleur caquiste et de couleur libérale, là, si on regarde ça de façon plus lointaine. Alors, tu sais, des fois, faut toujours faire attention quand on dénonce les nominations partisanes. Et pendant ce temps, Mme Anglade s'offusque aussi du vote de confiance qui a été accordé au directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, que le Conseil des ministres a renouvelé pour les trois prochaines années. Donc, son mandat va se poursuivre. Il venait à échéance cet été le mandat de M. Arruda. Alors, Mme Anglade dit, fallait-il renouveler ce mandat comme directeur de la santé publique? Parce que, selon elle, il y a quand même des décisions qui ont été un peu controversés, disons-le de cette façon, dans la crise, la gestion de la crise de la COVID-19. Entre autres, il y a toute la question du port du masque qui a été controversée. Il y a eu plein d'hésitations à ce sujet. Le dépistage aussi, le ton de certaines interventions qui ont été jugées en décalage avec la gravité de la situation selon le Parti libéral. Bref, dans le journal Le Devoir ce matin en page 1, Mme Anglade s'exprime et estime qu'on est peut-être, on aurait peut-être dû y réfléchir à deux fois avant de le renommer. Et qui va faire respecter ce fameux règlement sur le port du masque obligatoire dans les transports en commun? On ne le sait pas. On a essayé de poser des questions là-dessus nous-mêmes. On a essayé d'avoir le point de vue de la STM, la Société de transport de Montréal, le syndicat. Personne ne veut vraiment s'exprimer là-dessus clairement parce que vendredi, je suis tout mêlé d'un jour, on est jeudi aujourd'hui. Donc mardi, François Legault, en conférence de presse, a confirmé effectivement qu'il y aura obligation de porter le masque à l'intérieur des transports, des véhicules de transport en commun partout au Québec, et ce, à compter du 13 juillet prochain. Il y aura une période de grâce, si on veut, ou d'adaptation. Mais d'une part, il n'y a pas d'amendes qui vont être imposées. Et par ailleurs, ce sera le rôle, il n'y aura pas de police du masque, comme a dit François Legault vendredi, et ce seront les sociétés de transport de s'assurer de faire respecter la réglementation. Mais de quelle façon? Il va y avoir des agents qui vont se promener puis qui vont regarder les gens, vont dire, ben là, t'as un masque, t'as pas de masque, tu peux pas entrer ou quoi que ce soit. Les syndicats de chauffeurs d'autobus ont déjà dit qu'il n'était pas question que leurs membres, et je pense avec raison, se mettent à jouer à la police du masque. Là, voyez, mettez-vous à la place du chauffeur d'autobus qui est déjà derrière son espèce de vite là, en plexiglas. Les gens ne rentrent plus par en avant, ça rentre par en arrière. Il va faire quoi? Il va-tu arrêter et dire hey, « toi, tu sors, t'as pas de masque, etc. » Franchement, ce serait ingérable. Y aura-t-il des contrôles plus fréquents? Est-ce qu'il va y avoir des contrôleurs qui vont entrer dans les autobus, faire sortir les gens dans le métro, etc.? Alors, c'est quand même une question qui demeure sans réponse aujourd'hui, en fait, deux jours après la conférence de presse de François Legault. Et je comprends là, qu'on veut se fier sur la bonne foi des gens en disant c'est obligatoire, c'est un incitatif, mais il reste que... tu sais, moi, on m'a déjà dit, si tu fais adopter un règlement qui n'est pas applicable, c'est un mauvais règlement. Alors, là, je ne sais pas de quelle façon ça va se dérouler concrètement, on le verra à l'usage à partir du 13 juillet prochain. Bon, hier, c'était jour de déménagement, c'est toujours la même chose. Nous autres, on fait deux choses le 1er juillet, la fête du Canada et le déménagement. Alors, donc, hier, ça a déménagé un peu moins que d'habitude, dit-on. Peut-être qu'il y a des gens qui, compte tenu de la pandémie, puis voyant les difficultés que ça pouvait apporter dans la logistique du déménagement, ont décidé de ne pas déménager cette année. Mais il reste que, malgré ça, il y a quand même 173 ménages à Montréal qui n'ont pas trouvé d'appartement selon le FRAPRU. La ville de Montréal, d'ailleurs, a dû prendre en charge des dizaines de familles là, pour s'assurer que ces gens-là aient un endroit où demeurer à court terme. Et par la suite, bon, on devra essayer de leur trouver un logement. Mais le taux d'inoccupation des logements dans la ville de Montréal est le plus bas depuis les 20 dernières années, à 1,5. On dit que normalement, là, pour avoir un marché qui est en équilibre, qui est sain, c'est autour de 3%. Et là, on est à 1,5% des appartements qui sont inoccupés. C'est très, très peu dans la région de Montréal. Bon, une histoire dans le journal La Presse ce matin qui est touchante et allez savoir pourquoi depuis quelque temps j'ai une certaine sensibilité pour ces histoires-là. Mais les parents d'un bébé de 8 mois vivent une course contre la montre devant une rare maladie dégénérative qui n'a pas de médicament, dont en fait, il existe un médicament, mais il n'est pas homologué par Santé Canada, donc pas disponible chez nous, et c'est un médicament qui coûte extrêmement cher. Ils sont dans une course contre la montre pour essayer d'amasser 2,8 millions de dollars pour ce médicament que l'on qualifie de plus cher au monde, et qui devrait être injecté, si on veut, au petit Nathan qui est né le 20 octobre 2019. Il y avait un frère jumeau, puis à un moment donné, ils se sont rendus compte que les deux jumeaux ne se développaient pas à la même vitesse. C'est que le petit Nathan, lui, a un gène qui est défectueux, le SMN1, qui cause une maladie très rare qu'on appelle l'amyotrophie spinale de type 1. Et ça fait en sorte que le bébé n'a pas de tonus et donc sa vie pourrait être en danger. Mais il existe cependant des médicaments, mais ils coûtent très cher et ils sont disponibles seulement aux États-Unis. Et il y a un médicament qui s'appelle le Zolgensma, qui est un traitement unique que l'on injecte une seule fois, selon ce que je peux comprendre, par voie intraveineuse. Le problème, c'est que le médicament qui a été homologué en 2019 est utilisé aux États-Unis seulement. Le Canada ne l'a pas homologué encore. De sorte que, s'ils veulent avoir accès à ce médicament-là, ils doivent l'acheter. Et la fiole de médicaments coûte 2,8 millions de dollars. C'est extrêmement dispendieux, bien sûr, mais mettez-vous dans la peau des parents. Alors, tu sais, c'était le papa explique, il dit, c'était là 100, 200 000 piastres, bon, tu hypothèques la maison, puis tu trouves des moyens, puis... Mais là, ils sont dans une situation où on doit absolument agir rapidement parce qu'il faut que le médicament soit injecté très, très vite si on veut que ça ait un effet pour le petit Nathan. Ils sont à 122 000 $ récoltés en ce moment sur une page GoFundMe. Alors, la somme est énorme. On est loin des 2,8 millions nécessaires, mais on demande un petit miracle. Alors, si jamais vous avez une certaine sensibilité, le papa dit, écoutez, si tout le monde met 5 piastres, s'il y a 150 000 personnes qui mettent 5 $, ben on arrive au compte, finalement. Alors, c'est ce qu'on voudrait essayer de faire. Alors, il y a une page GoFundMe là, pour le petit Nathan qui vise à récolter 2,8 millions. On leur souhaite la meilleure des chances, bien sûr, parce que quand tu as un enfant qui est malade, là, et je suis bien placé pour en parler, quand il y a un enfant qui est malade, tu fais tout pour essayer de le sauver. Alors, on lui souhaite vraiment bonne chance. Bon, 5 héros de la Grande Mosquée de Québec vont être honorés. Vous savez qu'hier, on n'a pas vécu la fête du Canada traditionnelle parce que COVID oblige, les rassemblements étaient interdits. Mais hier, on a annoncé que 5 hommes qui se sont dévoués, même en donnant leur vie lors de cet attentat au Centre culturel islamique de Québec le 29 janvier 2017, eh bien, vont être honorés par la gouverneure générale du Canada, Julie Payette. Ils font partie des 123 personnes qui recevront un titre de la représentante de la reine lorsque la cérémonie aura lieu dans une époque ultérieure, n'est-ce pas, parce que la COVID empêche qu'on le fasse maintenant. Mais il reste qu'il y a plusieurs personnes qui vont être, dont Azzedine Soufiane. Souvenez-vous de ce personnage qui, je pense, est un héros. Malheureusement, il a péri sous les balles d'Alexandre Bissonnette le 29 janvier 2017. Et Monsieur Soufiane s'était littéralement jeté devant les balles en essayant de désarmer Bissonnette, qui l'a atteint mortellement. Donc, il y a d'autres personnes qui vont aussi, là, ils sont 6, qui vont recevoir cette médaille, dont, entre autres, comment il s'appelle, Ayman Derbali, qui est maintenant paralysé. Il a reçu 7 balles d'Alexandre Bissonnette en tentant de protéger les autres. On avait fait une entrevue avec lui l'année passée sur nos ondes. Et c'est vraiment une personne qui a toute mon admiration, évidemment, mais qui est maintenant, bien sûr, vit avec les conséquences tragiques de ce geste-là. Bon, à part ça, toujours dans la Presse Plus, on a deux beaux exemples de démocratie internationale. Première des choses, ce qui s'est passé à Hong Kong au cours des dernières heures, moins de 24 heures après l'entrée en vigueur de la fameuse loi sur la sécurité nationale qui a été imposée par Pékin. Vous vous souvenez des importantes manifestations qui ont lieu au cours des derniers mois avant que la COVID, bien sûr, vienne mettre un terme à tout ça. Mais là, ça a repris. La police a procédé aux premières arrestations en vertu de cette fameuse loi au cours des dernières heures, et parmi les quelques 370 personnes qui ont été arrêtées mercredi par les forces de l'ordre, 10 l'ont été pour violation présumée de cette loi sur la sécurité nationale qui est interdit, entre autres, de manifester et même le soutien au mouvement d'indépendance d'Hong Kong, mais pas juste Hong Kong, il y a Taïwan aussi, le mouvement d'indépendance du Tibet. Alors, il y a plein de gestes qui sont maintenant devenus illégaux, et il y a des photos assez révélatrices de la façon dont la police s'y est pris hier pour réprimer ces manifestations. Et l'autre bel exemple de démocratie, mais c'est en Russie, où Vladimir Poutine a gagné hier son référendum, et donc la Russie a adopté la vaste révision constitutionnelle qui va autoriser Vladimir Poutine à se maintenir au pouvoir jusqu'en 2036, si jamais il est réélu jusque-là, évidemment. Alors, un référendum qui est qualifié d'énorme mensonge par l'opposition, mais écoutez les chiffres, c'est vraiment de la belle démocratie. 77 % des gens ont voté en faveur des modifications à la Constitution qu'avait proposé Vladimir Poutine, et le taux de participation était à 65 %. Alors, mon Dieu, c'est donc bien, les gens s'expriment, puis sauf que dans les partis d'opposition, on soupçonne, n'est-ce pas, la falsification et des résultats électoraux là-bas. Alors, il reste que Vladimir Poutine va donc demeurer dans le paysage politique russe pendant encore bien longtemps.